Quatrième visite amicale de Féloche et de sa mandoline pour un titre.
Il y a ceux qui brûlent en enfer pour l'éternité dans les flammes éternelles.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous ce soir à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
France Inter, il est 15h04 là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Manuel Valls a parfaitement raison. Foutons Django Reinhardt dehors et laissons Stéphane Grappelli jouer du violon tout seul. Bonne journée, au revoir.
Le Front National n'est plus un parti d'extrême droite. Le Front National n'est plus un parti d'extrême droite. Le Front National n'est plus un parti d'extrême droite. Marine Le Pen est pour les classes moyennes, les ouvriers et les travailleurs. Marine Le Pen est pour le peuple. Marine Le Pen est pour les classes moyennes, les ouvriers et les travailleurs. Marine Le Pen est pour le peuple. Marine Le Pen est la seule solution pour la France. Marine Le Pen est la seule solution pour la France. À trois, vous vous réveillerez, vous serez détendu, vous serez confiant, vous vous rendrez à votre bureau de vote pour mettre le bon bulletin dans l'urne. 1, 2, 3.
Je réagis par rapport à l'émission d'aujourd'hui que j'ai trouvée très intéressante sur le populisme. Je voulais vous remercier de nous décrypter certains discours de Marine Le Pen qui sont vraiment faits par moments pour noyer le poisson, on n'y comprend plus rien. À propos de cette émission sur le populisme, je signale qu'un jour, moi, je m'étais faite traiter un jour d'ouvriériste. Bon, ce qui n'est pas la même chose. Mais je vous suggère un jour de faire une émission sur qu'est-ce que c'est que la République. Car tous les responsables politiques se réclament toujours de la République, ceux de droite comme ceux d'extrême droite comme ceux de gauche. Et si la République, ça rejoint liberté, égalité, fraternité, rappelons qu'en France, le mot liberté est sacré, mais qui est libre? Celui qui a les moyens, celui qui a de l'argent. Quand on est tombé dans la pauvreté extrême, quelle liberté nous reste-t-il? Plantu avait fait un jour, vers 1984, au moment des grandes manifs sur l'école libre, un dessin génial avec des manifestants et des banderoles où il était marqué « Liberté, liberté chérie, liberté d'exploiter, liberté de virer les Arabes ». Donc, merci de continuer à nous décrypter la politique, parce qu'on est vraiment dans une période où tout est fait pour noyer le poisson. Au revoir.
Bonjour, voilà, j'écoutais là-bas si j'y suis. Je trouve que tous ces étrangers qui sont en France, on devrait les renvoyer chez eux. Tous les étrangers, ils viennent nous piller, ils volent partout, ils pourrissent le pays, ils salissent le pays. Moi, je suis pour Marine Le Pen. Et c'est dommage qu'il n'y a pas, il y a trop d'étrangers comme ça. C'est pas normal, ça. Nous, on ne va pas chez eux. Alors qu'ils rentrent chez eux et qu'ils se démerdent avec leur État. On n'a pas à les assister. Eux, ils passent avant nous. Vous trouvez que c'est normal, ça? Ben non. Moi, je trouve pas que c'est normal. La France aux Français. Les étrangers chez eux. Un point, c'est tout. Voilà. Bonne journée. Et c'est bien vos émissions, quand même, puisqu'on peut laisser des messages. Merci. Au revoir.
C'est pour répondre à cet auditeur qui n'avait l'air de jurer que par Dieudonné et Alain Soral. Déjà, Dieudonné, c'est quand même un comique. Il faudrait peut-être pas non plus lui ériger des statues en son honneur. Il fait le même spectacle et le même show que ses copains. Alain Soral, c'est un peu plus grave parce que j'ai regardé un petit peu des vidéos au début quand il montait dans l'esprit populaire des gens et on m'a dit « Regarde, c'est rigolo ». J'ai regardé ça comme une espèce de punk qui se déchaîne sur tout le système. Si on le prend comme ça, ça va, si on a un peu de recul. Mais à force de regarder ses vidéos, on voit quand même qu'il a ce petit côté un peu hargneux. On sent un peu la haine dans sa voix quand il parle du système. Il a commencé dans le cinéma, il s'est mis en tant qu'écrivain. Je vous conseille de lire ses livres, qui sont très très mal écrits et souvent bourrés d'incohérences. Il faudrait quand même éviter de trop suivre la parole de ces espèces de gourous qui sont d'excellents manipulateurs et qui savent surfer sur à peu près toutes sortes de propagandes pour attirer des gens dans leur camp, surtout sur l'idéologie anti-juive qui marche très bien auprès des jeunes de quartiers populaires. Allez, salut, merci.
Nicolas Sarkozy reste mis en examen dans l'affaire Bettencourt. C'est pas beau de se réjouir, mais c'est tellement bon.
Bonjour, c'est Alain de Cassis. Je viens d'entendre les messages pour se faire tatouer le pénis. Je l'ai fait une fois il y a 4 ans maintenant à Bolton en Angleterre. La douleur, c'est supportable, mais attention, vous vous doutez pourquoi, on peut être parfois très vicieux. C'est un tatoueur, paraît-il, renommé en Angleterre. J'avais amené une photo d'un boa constricteur, un très beau serpent impressionnant. Il a, paraît-il, copié la photo, et finalement, je me retrouve avec un petit ténia, un petit vertébrate vraiment minable. Donc, attention. Allez, ciao, au revoir à vous tous.
Voilà, vous voilà prévenu, hein, vous vouliez un boa et puis ça se finit, un petit ver de terre. On a toujours pas d'informations sur la possibilité ou non de se tatouer le numéro du répondeur de la basse, si j'y suis, sur le pénis. Donc on vous demande des informations, est-ce que c'est autorisé en France ou non, et qu'est-ce que ça fait quand on le fait. Voilà des précisions, en tous les cas, extraordinairement importantes. Merci pour tous ces messages, vous avez vu, ça a bougé pas mal, ça a chauffé dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, suite à l'émission d'hier. Ah, aujourd'hui, alors on va faire une petite balade, il fait beau, on va monter là-haut vers le Cotentin, vous voyez là. C'est très beau, c'est puis là en ce moment, l'automne, les beaux ciels, les grands ciels, la mer, la balade, un dimanche de septembre, et voilà, on ramasse des coquillages. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font là, ces ramasseurs de coquillages, à 9613 kilomètres de Fukushima? Ah, mais pourquoi Fukushima? Quel rapport? Eh bien, le rapport, c'est la radioactivité. Ces paisibles promeneurs font partie de l'ACRO, A-C-R-O, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Et cette association, l'ACRO, a été créée en 1986, après la catastrophe de Tchernobyl. Et l'ACRO implique les riverains, les habitants autour des installations nucléaires, à la surveillance des niveaux de la radioactivité autour de chez eux. Voilà ce que font ces promeneurs paisibles ce dimanche-là. Eh bien, ils font des prélèvements. Et c'est avec eux qu'on va passer cette heure. Antoine Chao les a rencontrés. Aussi parce que l'ACRO est étroitement impliqué dans les suites de la catastrophe de Fukushima. Et l'ACRO a ouvert un laboratoire à Tokyo et suit chaque jour et s'implique dans l'enlisement de cette catastrophe. Plus de 2 ans après, que devient cette centrale? Que deviennent les habitants qui étaient là? Que deviennent ceux qui tentent désespérément d'arracher cette centrale à la catastrophe qui continue sans que nous intéressions beaucoup? Et pourtant, c'est à 9613 kilomètres de ces plages du Cotentin, de notre beau pays, mais c'est peut-être beaucoup plus proche qu'on ne peut le supposer. Voilà notre sujet d'aujourd'hui, Fukushima. Rien à voir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est pour annoncer le Café Repère de La Rochelle au restaurant La Petite Marche, 4 rue des Trois Fuseaux, vendredi 27 septembre de 19h à 21h. Le thème, c'est l'argent, avec la participation de conteuses d'une association de La Rochelle qui s'appelle Contact. Voilà, vendredi 27 septembre, 19h, 21h, des comptes sur l'argent et un débat sur l'argent. Merci, au revoir.
Résistance citoyenne pour le retour de Daniel Mermet le vendredi à 15h.
Conseiller, là, le détecteur, il s'en mal. Donc là, on a déjà multiplié par 3 l'exposition des radiations. Parce qu'on est à 300, plus de 300 coups par seconde, alors qu'on était à environ 100 tout à l'heure.
Alors là, il y a du matériel, c'est ça?
Matériel de prélèvement. Donc on a des petites fioles pour prélever l'eau douce. Donc là, en fait, il faut qu'on les dépose chez un des préleveurs volontaires qui habite dans la Hague et qui fait le suivi des ruisseaux, justement, qui sont situés sous le centre de stockage de la Manche. Et là, on a vraiment un suivi très, 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 très fin de la pollution à la fois des nappes phréatiques et des autres surfaces.
Et les bottes en caoutchouc, quoi.
Indispensable, les bottes en caoutchouc. Le kawaii aussi.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base où j'y suis avec Antoine Chao. Fukushima, rien à voir. L'avenir irradieux.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors ça, c'est les chapeaux de gendarmes, c'est ça?
Les chapeaux de gendarmes, on appelle ça les flics. Je me faisais disputer par ma maîtresse parce que c'est du patois et...
Les flics?
Ouais, des patels sinon. Des patels.
On n'en mange plus?
Alors vous n'en mangez plus? Des flics, c'est ça?
Ben non, on n'en mange plus. En patois, c'est des flics. Les grosses, ça s'appelle les gvao, comme on dit les chevaux. Et c'est pas les meilleurs, hein. Les gens qui sont connaisseurs des flics prennent des plus petites. C'est pas forcément extraordinaire, mais c'est un goût d'enfant, c'est surtout ça. Donc, de temps en temps, quand je viens faire les prélèvements, j'en mange une quand même. Ça fait partie de nos contradictions, ça. Parce qu'on mangeait ça quand on était petit, sur la braise avec mes grands-parents, mes parents. Mais nous, on prend des plus grosses, parce que pour le labo, après, c'est toute une histoire. Il faut qu'ils les écrasent, etc., pour faire les prélèvements. Donc il vaut mieux prendre les gros, et en plus, laisser les petites grossir, puisqu'on vient quand même assez régulièrement.
Vous venez tous les combien ici?
Tous les trimestres ici, tous les trimestres. Mais autrement, des prélèvements d'eau et d'eau dans les rivières, d'eau de mer, il y en a tous les mois.
Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces petites bestioles là?
Ah, alors là, il vaut mieux demander à Antoine qui est un scientifique. Hein, parce que moi, je suis une bénévole, je suis pas très douée en matière.
Qu'est-ce qu'on va trouver, Antoine Bernelin, dans ces bestioles alors, dans ces flics?
On va trouver essentiellement du cobalt 60. C'est celui qu'on met en évidence le plus systématiquement, le plus fréquemment ici. Ça fait partie de la batterie des isotopes radioactifs qui sont rejetés en mer. C'est la particularité des effluents radioactifs des usines de retraitement.
Donc ça veut dire que là, si on mange ces patelles, on va bouffer du cobalt.
Oui, tout à fait. C'est vraiment cet isotope radioactif qui est issu de l'industrie nucléaire
C'est parce qu'il est déversé à proximité qu'on le retrouve dans ces patelles.
Voilà, tout à fait. Celui-là, il a pas d'autre origine en fait que les centrales nucléaires et donc le retraitement. Mais...
Qu'est-ce que ça fait de manger du cobalt radioactif?
Ça a pas de goût déjà, donc on va pas le savoir. Mais en fait, c'est le rayonnement qui est dangereux pour la santé. En fait, il va donner de l'énergie aux cellules qu'il va rencontrer, et donc c'est cette énergie en fait, s'il y en a une quantité trop importante, qui va abîmer les cellules, qui va les brûler. Ou là, on va pouvoir même aller abîmer carrément notre ADN. Donc ça veut dire qu'on va perturber toute notre génétique et éventuellement notre descendance aussi. Si les quantités sont faibles, mais qu'elles sont chroniques, donc c'est dans le cas d'une ingestion régulière de produits contaminés, donc là on est dans le registre des faibles doses, dont on ne sait pas encore beaucoup de choses, mais qui laissent supposer que l'influence et l'impact négatif sur la santé est bien plus important que ce qu'on a pu imaginer jusqu'à pendant longtemps.
Ici, on est dans la Manche, on est dans le Nord Cotentin.
Ouais, c'est ça, on est dans une toute petite zone géographique dans laquelle il y a quatre installations nucléaires. Il y a la centrale de Flamanville avec l'EPR qui est en construction, l'usine de retraitement d'Areva. Juste à côté, il y a le centre de stockage de la Manche.
Donc ça, c'est la Hague, hein, c'est ça?
Voilà, ça, c'est la Hague. Bon, comme voilà, je dis pas la Hague, parce que la Hague, c'est une région d'abord, avant d'être une usine de retraitement, mais c'est bien de le souligner. Et puis à Cherbourg, il y a un arsenal militaire. Donc ça fait quatre installations dans un tout petit périmètre. Il y a une concentration de matières radioactives vraiment importante. Donc on fait de la surveillance de l'environnement.
Alors vous surveillez, c'est l'ACRO qui surveille, hein, c'est l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on fait des prélèvements de différents échantillons de l'environnement aquatique principalement, donc à la fois dans les rivières mais aussi sur le littoral. Et on fait nous-mêmes nos analyses. C'est-à-dire qu'on a un laboratoire qui nous permet de mesurer les éléments radioactifs qui sont présents dans ces différents échantillons.
Bon, Alors, sushi au cobalt 60, yakitori à l'iode 129, ou sashimi césium 137, avec son petit accompagnement de tritium, ou bien alors vous avez le shirashi à l'uranium enrichi, le maki au carbone 14, le wasabi au 100 000 de sieverts. Et oui, c'est notre avenir irradieux, peut-être, mais quel rapport entre Fukushima et l'endroit où nous sommes avec ces braves gens prudents qui font ces prélèvements et qui observent l'observatoire citoyen de la radioactivité, qui face au manque de transparence et d'objectivité des industriels du nucléaire, face aux rejets autorisés ou non qui sont libérés dans l'environnement, face au manque de connaissance de l'impact des radionucléides sur le vivant, face aux normes admissibles qui sont le fruit d'intérêts économiques et de savoir scientifique du moment, eh bien la Croix a créé un réseau de surveillance qui fonctionne depuis pas mal d'années. La Croix n'est pas a priori une association anti-nucléaire ou même stop nucléaire. C'est simplement une association qui tend à surveiller l'environnement et à fournir le résultat de ses observations aux décideurs et puis par voie de conséquence évidemment aux citoyens. Et ce qui nous a intéressé avec Antoine, c'est que la Croix, je le disais en commençant, est impliquée dans à Fukushima. Il y a un laboratoire près de Tokyo, de l'Acro, et ils vont pouvoir nous parler de ce qui se passe à Fukushima. On a un peu oublié, on a été frappé, sidéré par cette catastrophe, et de temps à autre, on a quelques nouvelles qui nous reviennent de ce qui se passe là-bas. Mais pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, on est quand même un pays très, très nucléarisé. Les informations nous viennent, mais quand même avec une certaine réticence, on va dire, de la part de l'ambiance générale de notre pays par rapport à ces questions-là. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Fukushima, la Hague, vraiment rien à voir.
Si tous ceux qui sont vrais sont morts aujourd'hui, ne les laissons pas tomber dans l'oubli. Construisons l'avenir main dans la main. Offrons-nous un meilleur lendemain.
Il faut s'unir.
Aux abords de Caen, c'est le laboratoire de l'ACRO, de l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Japan's Radiation Refugees.
Bonjour.
Voilà. C'est ici que vous sauvez le monde ?
Voilà.
C'est pas jusque-là.
Donc le labo est...
4.
Ça, c'est le compteur GGR. Ce qu'on appelle compteur GGR, donc ce qui va nous. Donc là, il démarre. Donc là, on voit qu'on est à une petite centaine de désintégrations par seconde. Tout à fait normal, hein, c'est ce qu'on trouve un peu partout dans l'environnement. Et puis, on a quelques échantillons qui peuvent du coup faire fluctuer un peu le.
Et ça, c'est de la paille de riz.
La paille de riz qui a été prélevée à Fukushima, pas longtemps après l'accident. C'est quand même quelque chose qui est relativement important.
Donc, ça y est, là, le détecteur, il s'emballe.
Donc là, on a déjà multiplié par 3 l'exposition, l'irradiation. Plus on s'éloigne, plus on va diminuer le rayonnement. Donc là, j'ai juste reculé l'échantillon de quelques centimètres du détecteur. Au bruit, on entend qu'il y a un rayonnement qui est moins continu, qui arrive jusqu'au détecteur. Le bruit tout à l'heure, si je me rapproche, on arrive, en fait, c'est comme si on saturait plus ou moins le détecteur. Et du coup, on sait que là, on a une source qui est assez importante.
C'est de la paille de riz qui vient de Fukushima. Alors, Fukushima, comment ouais. Vous avez récupéré ça?
Bah, ça nous a été envoyé en fait par des préleveurs volontaires du Japon dans les premiers jours après l'accident, qui voulaient connaître les niveaux de contamination.
L'explosion était attendue, France 3, et l'image est spectaculaire.
14 mars 2011.
Il est 11h01 ce matin au Japon, 3h01 en France. Le bâtiment qui enveloppe le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima est soufflé. 6 personnes ont été blessées. L'enceinte extérieure a été soufflée. Mais le cœur du réacteur numéro 3 est intact selon le gouvernement. Il exclut un nouveau Tchernobyl. Une explosion similaire s'était déjà produite samedi, détruisant le bâtiment du réacteur numéro 1. Les habitants sont invités à rester chez eux.
Ceux qui ne l'ont pas fait doivent immédiatement regagner leurs habitations et rester à l'intérieur.
Plusieurs explosions en 3 jours et beaucoup d'interrogations sur la menace nucléaire. Le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima.
David Boyer, vous êtes président, hein, c'est bien ça?
Oui, je suis le président de l'association. La CROSS, c'est un laboratoire associatif d'analyse de la radioactivité qui est né juste après la catastrophe de Tchernobyl, quand le nuage s'était prétendument arrêté à la frontière. Et donc à cette époque, des gens ont voulu mesurer par eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans les contrôles officiels. Toutes les installations nucléaires de France ont sonné, donc le nuage était passé, ils le savaient pertinemment bien. Mais les autorités françaises ont voulu éviter un vent de panique, enfin supposé vent de panique, et ont minimisé l'impact de la catastrophe. Alors que si on regarde dans d'autres pays européens, il y a d'autres mesures qui ont été prises, et qui n'ont pas créé un vent de panique.
Donc il y a deux structures qui sont créées, hein. Il y a la CRO et la CRIRAD à l'autre bout de l'Hexagone, on va dire. Ouais.
Donc ces deux se sont créées dans les deux endroits les plus nucléarisés de France, donc ce n'est pas un hasard non plus. Parce qu'il y avait déjà des militants antinucléaires sur place, des gens qui étaient préoccupés par les rejets des installations nucléaires, et qui donc savaient ce que c'était que la radioactivité, savaient ce que c'était qu'un becquerel, un sievert, qui avaient déjà des notions. Et la transformation de Tchernobyl, c'est que tous les Européens se sont retrouvés riverains d'une installation nucléaire qui était en plus derrière le rideau de fer. Et il y a eu la masse critique autour de ces gens qui connaissaient déjà pour créer un laboratoire d'analyse. J'étais étudiant à Strasbourg à l'époque. Donc je me rappelle du double langage entre l'Allemagne et la France, mais qui m'avait choqué.
Donc étudiant en physique, hein, parce que vous êtes physicien nucléaire, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'étais étudiant en physique à Strasbourg.
Et aujourd'hui, vous êtes?
Je suis enseignant-chercheur en physique.
La CRO ne se positionne pas comme antinucléaire?
On n'est pas antinucléaire, on est critique sur le nucléaire. Les principaux soucis de la CRO sont la protection de l'homme, enfin de la santé humaine et de l'environnement. Et donc on s'intéresse aux rejets, aux accidents, aux problèmes de déchets, donc tout ce qui sort d'une centrale, c'est notre principale préoccupation. Et après, on espère, c'est pouvoir démocratiser les choix scientifiques et technologiques. Donc on participe au débat sur les déchets, on a participé au débat sur l'EPR. Donc sur l'EPR, par exemple, on avait pris clairement position contre.
Et alors le financement de la CRO?
En partie des subventions publiques, la surveillance de l'environnement qu'on fait. Toutes ces données sont transmises au réseau national de mesure. Et ça, c'est financé en partie par l'État. On vend des études aussi. Donc les commissions locales d'information qui sont autour de chaque site nucléaire de temps en temps commandent des expertises, lancent des appels d'offres. On est souvent retenu. Donc c'est aussi une source de revenus. Il y a évidemment les dons des adhérents, les ventes d'analyse. Mais les adhérents, c'est plus sous forme de travail bénévole. On arrive à valoriser ça et si on le transformait en salaire, on arriverait pratiquement à un tiers du budget de l'association. Sans ces bénévoles, on n'existerait plus. Et ce sont eux qui sont les garants de l'indépendance, que l'état d'esprit de l'accro est maintenu.
Donc là, il y a la petite équipe là, des préleveurs volontaires
là,
qui attaquent les rochers. Là,
ouais. Les rochers, oui. C'est des petits coquillages puis, et des algues. Moi, je vais à la pêche aux algues. Moi,
avec Eric,
ouais. Eric aussi. Et il fait toujours beau le jour des prélèvements. Toujours.
Vous êtes d'ici, vous êtes né ici?
Oui, je suis né ici. Mes parents étaient paysans sur une des communes de La Hague. Mais ici, c'est vrai que la vérité ici, elle n'est pas donnée. Hein. Il faut se battre pour avoir la vérité. Elle sera jamais donnée. Et donc c'est pour ça, c'est un combat et une lutte pour débusquer des failles et des choses qui auraient été. C'est pas des mensonges, mais des mensonges par omission. Disons, voilà.
Elle est belle, hein, cette plage.
Hein. Eh oui, c'est ça qui est difficile. Parce que quand on vient comme ça, c'est toujours un superbe moment. On se sent bien, c'est beau, on est chez soi. Et puis à côté de ça, bah, on vient voir un peu ce qui s'y passe, ce qui vit ici, qui ne devrait pas être là. C'est une grosse tâche dans le décor qu'on ne voit pas, mais dans le décor dans la tête. Quoi. C'est vraiment difficile. Pour moi, c'est toujours un moment de contradiction. Quoi. Voilà.
Et vous, vous êtes d'ici aussi?
Oui, moi je suis née à Beaumont en 61. Donc mes parents disaient, oh, qu'est-ce qu'on était bêtes, on nous disait que... Ils allaient construire une usine de casseroles. Alors avec la poussette, on allait voir le chantier d'Areva, en fait. Hein. Le nucléaire, dans les années 60, ça parlait à personne. Hein. Donc on se demandait bien ce qui s'y passait. Donc les gens allaient voir un peu par curiosité. Le dimanche après-midi, c'était la balade. On allait sur le chantier voir un peu ce qui s'y passait. Quoi.
Et ça a donné du boulot à tout le monde, hein, j'imagine.
Ça a donné beaucoup de travail. Et puis petit à petit, bah, c'est devenu... l'omerta, puisqu'on ne peut pas en parler. Hein. Il y en a qui en vivent. On a tous dans nos familles, dans nos amis, des gens qui vivent du nucléaire. Alors, il faut se taire, quoi. Hein. Voilà.
Et vous, il y a des gens de votre famille là, qui travaillent ou qui y ont travaillé?
Non. Ma mère a toujours dit, on a de la chance, personne ne travaille dans le nucléaire et personne n'est gendarme. Voilà, ça c'est le bon sens du monde paysan. Il y a aussi des gens qui avaient des petites terres et puis qui se sont dit bah, « on va peut-être mieux gagner notre vie là-bas hein. ». Donc au départ, il fallait pas mal de gens qui n'avaient pas forcément de qualifications particulières. Bon, bah, ça a permis à beaucoup de monde de s'en sortir. Hein. Et très vite, s'est installé un clivage quand même, hein, parce que avec tous les avantages hein, qui étaient liés à cette usine, je pense qu'on a... On a fait avaler des couleuvres dès le départ. Hein. Ma maman me disait, bah, quand on allait vous acheter des chaussures pour la rentrée des classes, sur le magasin, c'était marqué réduction pour les enfants de l'usine. Voilà, ça c'est un exemple concret qui existe depuis la création de cette usine-là. Hein. Enfin, l'EDF nous dit qu'ils ne doivent plus que la lumière. Alors, voilà. Hein. Il nous donne certainement plus que la lumière, mais on s'en passerait bien.
EDF, nous vous devons plus que la lumière.
Mais oui, ayez confiance. Bon, ces gens se baladent sur la plage par ce beau dimanche de septembre avec leur passe-temps, leur hobby. Bon, après tout, chacun son truc. Les uns, c'est la chasse au trésor. Les autres, c'est la pêche aux moules. Et eux, bon, ben voilà, des préleveurs volontaires. Pourquoi pas. Jusqu'au jour où, à des milliers de kilomètres de là, 9613 kilomètres de là, en avril 2011, on se retrouve avec un masque blanc sur le nez et on roule dans un étonnant silence et dans un étonnant désert vers une petite ville où dans quelques instants, les habitants vont apprendre qu'ils doivent évacuer.
Grâce à nous quitter, Alors ça y est, moi aussi je suis comme n'importe quel japonais, j'ai un masque blanc sur le nez et sur la bouche. Pourquoi donc? Parce que là, on est dans un périmètre de combien? 50 km par rapport à la centrale, et c'est quand même plus prudent de prendre quelques précautions. Et on est dans un paysage très beau, de fin d'hiver, magnifique. On a traversé des endroits où on fait des arbres fruitiers magnifiques. On fait des pommes, tout un tas de fruits superbes. C'est la spécialité du coin. Voilà, des rizières, là. Dans des endroits très beaux, très, très beaux, très, très beaux. Hidaté. Tu connais ce village, toi?
C'est un petit village de paysans. Enfin, c'est un petit village agricole. Ils sont en colère parce qu'en fait, ils n'ont jamais été pour la construction de centrales et que c'est eux qui subissent la conséquence. Comme ils sont loin de centrales, ils n'ont pas touché l'argent de centrales.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'argent de la centrale, ça veut dire que la centrale soutient et arrose toutes les communes alentour. Mais pas toutes. Et celle-ci n'a pas été arrosée, alors, si je comprends bien.
Oui, parce que nous sommes maintenant à 35 km. Oui, donc à la 1h30, là, maintenant, le monsieur le maire du village, va faire une conférence pour les coopératives agricoles et des entrepreneurs de village. Ah, ça commence. Ça commence. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril, juste un mois après le tremblement de terre. Notre village était épargné de tremblement de terre, mais l'accident de centrale a provoqué une évacuation aux alentours de 20 km. Mais la zone d'évacuation s'est agrandie petit à petit et nous voici maintenant. Le gouvernement a annoncé un nouveau plan d'évacuation qui est évacuation planifiée. Nous avons appris que notre eau de robinet n'est plus potable. C'est que nous avons appris que notre terre était contaminée. Maintenant, nous sommes victimes d'une rumeur comme quoi tout ce qui parvient de notre village est contaminé.
C'est-à-dire que dans la salle, devant nous, il y a des paysans, il y a des agriculteurs de riz, de fruits, de légumes, de lait aussi. Et ces gens sont ruinés. Ils apprennent en ce moment leur ruine, que cette région est contaminée.
On peut rester que pendant 8 heures par jour dans ce village.
Ici.
Ouais.
Désormais, on ne peut rester que 8 heures par jour dans ce village.
Ouais.
On assiste à la fin d'un village. À la fin d'une région, à la fin d'une civilisation d'une région.
Terasu hikari wanaku yari awaku kake wa katarazu ni yanate dekiru
Retour à l'accro, retour à l'Observatoire citoyen de la radioactivité avec David Boyer qui nous explique le lien qui existe entre cette association et ce qu'on vient d'entendre, ce qui s'est passé à Fukushima et ce qui se passe actuellement à Fukushima, plus de 2 ans après la catastrophe. La centrale dévastée continue de chauffer et fuit de partout. Les techniciens japonais arrosent d'un côté et pompent de l'autre. Il y en a pour des années, c'est les Shadok qui pompent, qui pompent, qui pompent, qui pompent.
La situation semble assez incroyable, quoi. Il y a eu notamment un article dans le Canard Enchaîné où il y a des containers d'eau qui sont remplis, qui fuient, etc. Alors c'est une réalité, cette situation, qui ne semble pas maîtrisée du tout, quoi.
Tchernobyl, c'est un accident nucléaire. Fukushima, c'est 3 accidents nucléaires simultanés, en plus du tsunami et du séisme. Donc c'est vraiment une situation complexe. Les combustibles qui sont dans les réacteurs, ils sont chauds et ils vont rester chauds longtemps. Si on ne les refroidit pas, ils fondent et c'est de nouveau dégazement et des rejets massifs et de nouveau les populations touchées. Une centrale nucléaire, l'image qu'on a en fonctionnement normal, c'est la cocotte minute, ça fait de la vapeur. C'est une machine à vapeur, une centrale nucléaire. La vapeur vient du combustible nucléaire et on fait de l'électricité. Là, on est passé à la cafetière. C'est-à-dire que pour refroidir, ils arrosent par le haut. Donc TEPCO arrose, ça percole. Et puis le fond est percé, donc ça va dans les sous-sols. Les sous-sols des 3 réacteurs, même le 4, sont complètement inondés, donc ça fuit. Donc une partie de cette eau contaminée va dans la nappe phréatique. Et inversement, la nappe phréatique coule dans les sous-sols de la centrale. Et il y a 400 mètres cubes par jour qui s'ajoutent. Et si TEPCO fait rien, ça déborde dans la mer. Donc TEPCO pompe, met dans des cuves, enlève une partie du sel, enlève une partie du césium, réinjecte une partie, mais il y a les 400 mètres cubes d'eau contaminée par jour qui viennent s'ajouter au stock. Tous les jours, elle a 400 mètres cubes. Elle met ça dans des cuves de 1000 mètres cubes. Donc, tous les 2 jours, elle est obligée de construire une nouvelle cuve qu'elle remplit d'eau.
1 mètre cube, c'est une tonne, hein, c'est ça?
1 mètre cube, c'est une tonne, oui. Donc, c'est 1000 litres. Déjà, un gros volume. Le dernier chiffre, c'est de l'ordre de 430 000 mètres cubes ou 430 000 tonnes d'eau contaminée. Donc pour le moment, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Alors ils ont plusieurs plans. Un des plans, c'est de beaucoup mieux décontaminer avec une usine qui devait démarrer en septembre 2012. Elle n'a toujours pas démarré. Au bout de quelques mois de test, elle était rouillée. Elle a commencé à fuir, ce qui est assez effarant parce qu'elle est là, il faut qu'elle refroidisse pendant au moins 10 ans. Et au bout de 3 mois de test, elle est déjà rouillée. Les cuves, il y a différents types de cuves. À un moment, ils ont mis des cuves pas chères. Il y en a 350, 280 de remplis. Les joints, ils sont en caoutchouc. Le caoutchouc, ça vit 5 ans. Avec la radioactivité, ça risque de vivre moins. Il y en a déjà une qui a fui. Et en plus, ils étaient mal surveillés. Là, il y a eu le typhon. Tous les réceptacles qui étaient sous les cuves, ils ont mis des réceptacles sous les cuves. Si jamais il y a une fuite, on va récupérer l'eau pour pas qu'elle aille dans l'environnement. Le problème, c'est que quand il pleut, les réceptacles, ils sont pleins d'eau de pluie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils avaient laissé les vannes ouvertes. Et donc, il y a une cuve qui a fui, la vanne était ouverte, c'est allé dans l'environnement, la nappe phréatique, la mer, et ils ont mis 1 mois sans rendre compte. 300 000 litres qui ont fui en mer d'eau excessivement contaminée, qui est complètement inadmissible. Autant le problème des nappes phréatiques qui s'écoulent, c'est dramatique, mais c'est complexe, on n'a pas de solution. Autant cette histoire de cuve qui était mal surveillée et qui n'était pas chère, c'est inadmissible. Il y a déjà eu un rejet massif au tout début de la catastrophe quand les sous-sols de la centrale nucléaire ont commencé à déborder en mer. La pêche est encore interdite 2 ans et demi après, dans un rayon qui se compte en dizaines de kilomètres autour de la centrale. Donc c'est toute une activité économique qui est morte.
2 ans après la catastrophe, les difficultés techniques sur le site de Fukushima ne cessent de se multiplier.
France 24, 20 août 2013.
La gestion de l'eau radioactive constitue l'un des problèmes majeurs rencontrés par TEPCO. Ce liquide découle en grande partie du refroidissement des réacteurs. Il y a 2 semaines, après des mois de déni, la société a fini par admettre que de l'eau radioactive accumulée en sous-sol se déversait dans l'océan Pacifique. Chaque jour, près de 3000 litres d'eau contaminée s'écoulent dans l'océan, où les habitants continuent de pêcher et de se baigner.
Les l'évacuation des populations, elle s'est faite dans deux temps. D'abord, il y a une phase d'urgence. Il y a la centrale qui menace. Donc, dans les premières heures, ils ont évacué d'abord dans un rayon de 3 km, puis après 5 km, puis après 10 km, et puis le lendemain, ils sont allés à 20 km. Et après, tant que la centrale menace, il faut les maintenir au loin. Et rapidement, on s'est rendu compte que la pollution radioactive, elle a dépassé ce rayon de 20 km. Elle est allée beaucoup plus loin. Jusqu'à Itaté, le village le plus contaminé qui a été évacué, c'est Itatemula. Et donc, cette évacuation en zone concentrique, elle n'était pas suffisante. Et les premières analyses que la Croix a faites au Japon, à la demande des réseaux de citoyens japonais avec qui on était en contact, c'était justement des échantillons de Itatemula. Et ça a été un choc pour nous. C'était pratiquement les territoires contaminés de Biélorussie à côté de la centrale de Tchernobyl. Et donc ce village, il devait être évacué. C'était évident. En Biélorussie, il aurait été évacué avec un tel niveau de contamination. Mais ça, l'ordre d'évacuer est arrivé plus d'un mois après le déclenchement de la catastrophe. Et on a dit aux gens, vous partez avant la fin mai. Et avant, personne ne leur a dit qu'ils étaient sous les vents radioactifs. Les gens ont vécu, autant ailleurs, ils se protégeaient, ils ne sortaient pas et tout ça. Autant là, ils ne se sont pas du tout protégés. Il y a même des réfugiés de Futaba qui sont venus à Itatemura, qui pensaient être en sécurité ici.
Bonjour madame.
Konnichiwa.
Là-bas, si j'y suis, au Japon.
Alors d'où vous venez madame, comme ça?
11 avril 2011.
Futaba-gun, Futaba-machi, à Fukushima-ken, Futaba-machi. Owada Nagatsuka Azamachi 3 ji Endo Shigeyo de gozaimasu.
Je m'appelle Shigeyo Endo, je viens de Futaba.
Ukedo nan desu kedo. Nami machi Ukedo.
Ma maison natale était emportée avec ma sœur et son mari.
Par le tsunami.
Yukui fume desu.
Ils sont disparus, on ne le trouve plus.
Sagasu ni mo sagasenai hōshanon ga aru kara.
Et avec la radioactivité, on ne peut pas, on ne peut même pas aller chercher les corps de ma sœur et son mari. Je ne peux plus revenir chez moi.
La foutre là-bas.
Non, je ne pourrai pas.
L'eau
est contaminée.
Qu'est-ce que vous avez dans votre sac?
Je suis partie avec rien, juste avec ma petite sacoche.
Toutes vos affaires sont là. Vous avez envie d'y retourner quand même?
Oui.
Parce que le riz est très bon là-bas. Les poissons aussi.
Donc ça, il y a la phase d'urgence, puis après il y a la phase après. On se rend compte que la pollution, elle ne suit pas les modèles et qu'elle est allée plus loin. Et il faut évacuer les gens, non plus parce que la centrale menace, parce qu'il y a les rejets, mais parce qu'ils vivent en territoire contaminé. La catastrophe de Fukushima, c'est 160 000 personnes déplacées. Sur ces 160 000, il y a à peu près la moitié sont des évacuations forcées, qui sont indemnisées, et l'autre partie sont des évacuations volontaires. Donc c'est les gens qui n'ont pas accepté la limite. Le seuil d'évacuation est considéré comme trop par beaucoup, dont la Croix. Et là, il y a un seuil. À partir de quand on dit « vous, ça va » et « vous, vous partez ». Donc en France, c'est dans la loi, c'est 10 millisieverts par an. C'est 10 fois plus qu'en temps normal. En temps normal, on ne doit pas dépasser pour la population 1 millisievert par an. En cas d'accident, la loi française dit qu'on peut aller jusqu'à 10 millisieverts par an. Le Japon, il a retenu 20 millisieverts par an. Et c'est la dose maximale des travailleurs du nucléaire en France. Il y a des enfants qui vivent là, qui ont reçu un dosimètre pour aller à l'école, et qui sont tous devenus des travailleurs du nucléaire. Ils ont la limite des travailleurs du nucléaire, ils ont un dosimètre comme les travailleurs du nucléaire, mais eux, c'est 24 heures sur 24, on ne leur a pas demandé leur avis. Et donc ça, c'est complètement inacceptable, cette situation. C'est pour ça que les gens qui pouvaient se le permettre financièrement sont partis. Donc c'est une situation qui est dramatique pour ces populations. Évacuer, c'est terrible. Rester, c'est terrible. Donc c'est vrai. Et le gouvernement a mis une limite trop haute et a dit aux gens, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez partir, mais débrouillez-vous. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont partis d'eux-mêmes. Ceux-là ne sont pas indemnisés. Mais les 80 à 90 000 autres sont indemnisés. Et donc TEPCO ne peut pas payer, elle a fait faillite. Le gouvernement avance l'argent, TEPCO remboursera quand elle pourra rembourser. Donc on est dans une crise financière en plus d'une crise sanitaire. Les politiques sont face à un dilemme qui est d'un côté la santé publique et l'autre les finances publiques. Et dans ce cas-là, c'est toujours les finances publiques qui gagnent. Alors, il y a eu des évacuations par étapes, mais dans un rayon de 20 km, il y a des zones qui sont peu contaminées, où les gens pourraient rentrer. Mais pour que les gens rentrent, et qui s'approche à nouveau de la centrale. Donc il faut prétendre que la situation est stabilisée, qu'il n'y a plus de danger à rentrer dans les zones peu contaminées ou moyennement contaminées. Et une fois que les gens seront rentrés chez eux, l'indemnisation va s'arrêter. Et donc le gouvernement a intérêt à dire que la situation est sous contrôle. Puis après, il y a eu l'histoire des Jeux Olympiques, là, qui a fait un grand scandale au Japon. Les données environnementales montraient sans ambiguïté que ça continue à fuir en mer. Mais TEPCO ne l'a jamais reconnu. Et cet été, tout d'un coup, le scandale a éclaté. Il y a eu des valeurs encore plus élevées que d'habitude, comme si les fuites avaient soudainement augmenté. Et le gouvernement japonais était embêté. Il savait, parce que ses experts, forcément, ils savaient que ça fuyait. C'est pas possible qu'ils le sachent pas. C'était plus possible de nier. Et tout d'un coup, c'est devenu un scandale planétaire au moment où ils voulaient faire gagner les JO. Et donc, face à cette situation, le premier ministre japonais, il a dit « la situation est sous contrôle ». Alors, il est rusé parce qu'il a dit « c'est sans effet sur l'environnement ». Je ne sais pas ce qu'il entend par « effet sur l'environnement ». Et ça a été un sujet de polémique qui n'est pas terminé encore maintenant. Donc, il y a des hommes politiques, même du parti du Premier ministre, qui ont dit « non, ce n'est pas sous contrôle ». Tout de suite, ils sont démentis. Un employé de TEPCO qui était à une réunion, il a dit « non, ce n'est pas possible de dire que c'est sous contrôle ». Tout de suite, TEPCO a fait un communiqué de presse pour le démentir. Bon, c'est en train de jouer sur les mots, c'est de la rhétorique. Dans les faits, c'est pas sous contrôle.
Les consommateurs et vendeurs de poissons japonais commencent à s'inquiéter des risques liés à la consommation du poisson.
NTD.
Cela résulte du fait que l'opérateur de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi a été contraint de déverser de l'eau contaminée en radioactivité dans la mer.
20 mai 2011.
Les consommateurs japonais ne sont pas les seuls concernés par la sécurité alimentaire. De nombreux pays ont également arrêté ou limité les importations alimentaires du Japon et l'Union européenne a vivement conseillé des analyses afin de déterminer le degré de radiation de la cuisine japonaise et des importations alimentaires.
Comment ça se passe? Comment la population vit ça au Japon?
Alors d'abord, il y a eu, au tout de la première année de la catastrophe, la chaîne alimentaire qui a été touchée. Et donc, il y a des aliments contaminés qui se sont retrouvés dans tout le Japon et tout le pays a paniqué. Et en plus, pour les gens qui vivent sur place, l'inquiétude, est-ce que mon potager est contaminé ou pas? Et donc, l'accès à la mesure, comme il y a une défiance totale envers les autorités, il n'y a qu'une solution, c'est mesurer par soi-même. Et là, la société civile japonaise a fait preuve d'un dynamisme qui est époustouflant. Il y a des stations de mesure, donc avec des petits instruments de mesure assez simples, plus simples que le détecteur qu'on a mis en place au Japon, pour limiter à la nourriture essentiellement. Et il y en a des centaines de stations de mesure d'initiatives citoyennes qui ont été créées dans tout le Japon, en l'espace d'un an. Il y a plein de mairies qui se sont équipées aussi. Et donc partout, les gens pouvaient aller mesurer eux-mêmes et faire des autocontrôles. Et donc là, la population japonaise, elle a fait preuve d'un dynamisme vraiment époustouflant. Nous-mêmes, on a installé un laboratoire sur place, beaucoup plus sophistiqué que ces stations de mesure qui sont tout à fait pertinentes après un accident, qu'on a mis en place avec des scientifiques locaux. Et il s'est mis en réseau avec, il y a une organisation qui s'appelle le Takagi Fund, qui un peu favorise les sciences citoyennes et qui a mis en réseau plusieurs petites stations de mesure, seul gros laboratoire, et pour faire des échanges d'échantillons, se contrôler entre eux. Et ils viennent de lancer une base de données où ils mettent toutes leurs données ensemble sur le même site web. Ce que le gouvernement japonais n'a pas réussi à faire, les citoyens sont en train de le faire au Japon.
Merci à tous. Fukushima, rien à voir. C'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à l'ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Vous retrouvez très facilement leurs coordonnées sur le net si vous voulez participer. Merci à Lisa, Françoise et Pierre, à Mylène Josset, Antoine Bernolin et David Boilet. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, la-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de là-bas si j'y suis qui attend vos commentaires à la technique. Aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Bruno Poncelet. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Aderer, préparée par Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis. À demain donc. Tout de suite, vous allez retrouver Hervé Pochon avec un temps de...
Pochon.
Dans la centrale de Fukushima, c'est ce rat qui pourrait être à l'origine de la coupure de courant qui a duré plus de 24 heures.
Euronews, 21 mars 2013.
La compagnie TEPCO affirme que le rongeur retrouvé mort aurait pu provoquer un court-circuit, stoppant les dispositifs de refroidissement des piscines où repose le combustible usé de trois réacteurs.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour madame, qu'est-ce que vous faites ici?
Je cherche une expo de dentelle. Très mal organisée, c'est impossible de le trouver, l'endroit.
C'est vrai?
Ah oui, là, vraiment, c'est terrible. Moi, je suis garée par là, perdue par là.
Ah oui?
Il n'y a pas d'affiche en ville, rien.
Mais on est où ici?
École Polytechnique, Palaiso.
C'est drôle qu'il y ait... Une exposition de dentelle à l'école polytechnique?
Oui, il paraît qu'il y a des dentelières.
C'est vrai?
Je ne sais pas, je vais voir.
Je peux vous suivre?
Si vous voulez.
Je vous en prie. Bonjour à tous et bienvenue à l'école polytechnique. Alors, il y a une exposition de dentelle. Et vous êtes dentelière, mademoiselle? Madame?
Oui.
Oui?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la dentelle?
Ah, c'est merveilleux. C'est un calmant merveilleux.
Mais alors, à Noël, vous offrez des petits napperons à toute votre famille?
Non, pas du tout. C'est tellement long à faire que je n'offre rien du tout. Ça dure des mois. Parce que si on a le temps de consacrer beaucoup de temps, ça va. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de choses faites. Voilà.
Je ferai votre prénom?
Claudette.
Merci, Claudette. Claudette, elle n'était pas contente. Elle dit c'est très mal organisé, hein, votre exposition.
On a fléché hier soir, on a refléché en rentrant hier soir.
Ouais. C'est payant l'entrée, madame?
Ah oui.
Combien ça coûte?
2 euros.
Oh là là. Je vois qu'il y a marqué Mélodie des Fuseaux sur votre robe.
Oui.
C'est quoi Mélodie des Fuseaux?
Bah, c'est le nom du club.
Le club de dentelle?
Dentelle de Polytechnique.
Mais alors, les polytechniciens, ils font de la dentelle?
Eh oui, pourquoi pas? On en a une là, qui est là d'ailleurs. La petite qui a les sacs jaunes.
Ah oui?
Allez la voir.
Ah, je vais aller la voir. Bonjour. On m'a dit que vous étiez polytechnicienne.
Oui, c'est vrai.
Je suis heureux de rencontrer une polytechnicienne.
Oh là là.
Mais alors, en plus, vous faites de la dentelle?
Oui, c'est vrai. Depuis 17 ans.
Et moi, je pensais que la dentelle, c'était réservé aux gens qui vivaient à la campagne.
C'est la campagne ici.
Oui, ça, c'est vrai, remarqué. Hein.
Et aux vieilles dames et tout ça.
Oui, voilà.
Non, non, on peut aussi s'intéresser quand on est jeune.
Comment vous avez découvert la dentelle?
Eh bien, j'étais élève et un jour, j'ai vu une exposition comme celle d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça joli et puis ben, j'y suis allée. Mais je dois avouer, je suis un peu une exception quand même.
Ah bon?
Il n'y a pas tant d'élèves qui s'intéressent à la dentelle.
Il n'y a pas tant de polytechniciens qui font la dentelle?
Pas tant. Mais ça donne un petit charme rigolo.
Mais l'expression « faire de la dentelle », c'est faire des fioritures et pas aller à l'essentiel. C'est un peu ça aussi.
Oui, bah la dentelle, c'est ce qui est beau dans la dentelle. C'est léger, c'est inutile et c'est magnifique.
Vous aimez l'inutile?
Oui, bien sûr.
Vous avez raison. Et pourquoi vous tendez le bras? Vous avez déjà 10 sacs de chaque côté sur chaque épaule. Vous en voulez plus?
Là, c'est pour distribuer des souvenirs de l'école polytechnique aux gens qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui à l'exposition.
Parce que vous êtes dans le comité d'organisation?
Voilà, c'est ça. On accueille aujourd'hui.
Je peux avoir votre prénom?
Sophie.
Bon, ben je peux vous suivre pendant que vous distribuez vos sacs?
Si vous voulez.
Merci. Alors, qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans cette exposition de dentelle?
Là-bas, il y a une dame qui fait de la dentelle tellement fine qu'on ne voit pas les fils. Et ça, c'est impressionnant. Alors, regardez ça.
Ah oui.
Vous voyez la taille des fils? Ça donne l'aspect de la 3 dimensions dans le... Ça, c'est un travail éblouissant.
C'est vous qui avez fait ça, madame? C'est facile, c'est marqué une petite étiquette dentelle Annie Falaisan.
Oui, 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 tout à fait, Annie Falaisan. Et je me suis inscrite au concours des meilleurs ouvriers de France en 2009. Et donc, j'ai eu 2 ans pour faire l'ouvrage.
Et vous avez gagné? Je vois qu'il y a un diplôme.
Le diplôme des meilleurs ouvriers de France. Un des meilleurs.
Un des meilleurs. Dentelle au fuseau. Et comment vous avez découvert la dentelle, Annie?
Écoutez, j'étais enseignante, hein, j'enseignais en cours préparatoire, et puis j'ai pris ma retraite et j'ai fait des différentes activités, là, un peu de peinture, un peu de broderie, et je suis tombée dans la dentelle en 2003. J'ai pris 2 années de cours de dentelle du Puy-en-Velay, Et puis, lors d'un couvige, comme aujourd'hui, là, j'ai vu un ouvrage qui me plaisait, c'était de la Duchesse. Alors, j'ai pris 3 ans de cours de Duchesse. Et quand mon prof a pris...
C'est quoi la Duchesse ?
C'est cette dentelle-là.
Ah, d'accord. C'est une
dentelle fine.
Ah, c'est la dentelle fine.
Et, voilà. Et alors, quand mon prof a pris sa retraite, eh bien, je me suis dit, je vais me retrouver toute seule. J'avais peur d'arrêter. Je me suis dit, bon, il faut que je me donne un but, donc je me suis inscrite au concours, tout bêtement, quoi. En 2009, lauréate en 2011, et puis voilà, quoi, je continue. Et maintenant, je donne des cours.
Bon, ben merci et bravo, alors. Hein, oui. Et si on devait vendre ce petit tableau avec cet oiseau et ses oisillons...
Ah non,
ça n'a pas de prix, c'est ça, c'est inutile, léger et gratuit.
Ce qui est rigolo, c'est aujourd'hui, dans notre société... On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire d'inutile. Il faut toujours chercher la rentabilité.
Ah ça. Mais non, c'est un peu pour résister.
C'est du rêve, ça aussi. Enfin, c'est beaucoup de travail, mais c'est du rêve.
Même quand on est milliardaire, on ne peut pas s'offrir ça. Mais aucune dentelière accepterait de céder cette œuvre-là pour 10 000 euros. Ouais. C'est ça qui est classe.
On y met ce qu'on est dans les ouvrages en dentelle, hein, quand même.
Alors c'est quoi votre thème? C'est la mère nourricière, parce qu'on voit
vie, tout bêtement, parce que là il y a le soleil, là l'oiseau a besoin de liberté, hein, donc j'ai pas fermé mon cadre. Hein,
ouais. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter présente Mon âme par toi guérie. Le nouveau film de François Duperron, avec Grégory Gadebois, Céline Salette et Jean-Pierre Darroussin, actuellement au cinéma.
J'ai envie d'une femme qui ne m'abandonne pas.
Freddy, motard solitaire, a un don. Ses mains guérissent, il est obligé de le reconnaître. Une nouvelle vie s'ouvre à lui.
N'essayez pas de me guérir, vous n'avez aucune chance.
C'est vous qui êtes en train de me guérir.
Retrouvez François Duperron et Grégory Gadebois à 20h05 dans L'Humeur Vagabonde et sur franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Estelle Schmitt.
La mise en garde de la Commission européenne dans le dossier des Roms, elle menace directement la France de sanctions et lui rappelle que les Roms sont des citoyens européens qui ont le droit de circuler librement dans tous les États membres de l'Union. Selon la Commission, les projets d'insertion des Roms sont insuffisants en France. Une intervention de Bruxelles alors que Manuel Valls a confirmé ce matin ses propos d'hier sur France Inter. Selon lui, les Roms ne sont qu'une minorité à vouloir s'intégrer en France. Certains dans la majorité sont choqués. Comme Harlem Désir, premier secrétaire du PS, il ne croit pas aux théories selon lesquelles certaines populations ne pourraient pas être intégrées. Autres propos qui font réagir, ceux de Noël Mamère et de Pascal Durand. Le premier quitte Europe Écologie Les Verts, le second ne briguera pas deuxième mandat de secrétaire national. Tous les deux décrivent un parti miné par des querelles internes, un syndicat d'élus selon Noël Mamère. Chez Les Verts, on tente plutôt de relativiser. Des confirmations plutôt que des annonces. Le gouvernement a présenté tout à l'heure son projet de loi de finances pour 2014. Comme on le pensait, il y aura 15 milliards de baisse des dépenses publiques. Certains ministères vont devoir faire de gros efforts. Plus de 13 000 postes vont être supprimés. Des efforts aussi pour les contribuables, puisqu'il y aura 3 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Et ce, sans compter la TVA, qui passera de 19,6% à 20% l'année prochaine. Plus de 4 mois après la disparition de Fiona, 5 ans, dans un parc de Clermont-Ferrand, 5 personnes sont en ce moment en garde à vue. À Perpignan, la mère de la fillette et son compagnon, tandis qu'à Clermont, 3 personnes sont également entendues, mais on ignore leur identité. L'une d'entre elles serait un proche du beau-père de Fiona. Un échange de tirs à la mi-journée à Port-Debout, près de Marseille. Un homme d'une quarantaine d'années a été grièvement blessé à la tête. Ses jours ne seraient pas toutefois en danger. La Syrie, une nouvelle fois au cœur des discussions à l'ONU, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Ban Ki-moon, le secrétaire général, reçoit cet après-midi les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité et sera en vue d'une résolution sur les armes chimiques syriennes. En attendant, des inspecteurs de l'ONU sont arrivés ce matin en Syrie. Ils devront déterminer s'il y a bien eu usage de ce type d'armes, mais ne sont pas chargés de déterminer les responsabilités. Par ailleurs, les États-Unis viennent de signer le traité sur le commerce des armes conventionnelles. À Nairobi, au Kenya, des experts en explosifs fouillent toujours les décombres du centre commercial théâtre d'une attaque d'islamistes qui a duré 4 jours. Ils cherchent d'éventuelles bombes, mais surtout des corps. Pour le moment, on en a décompté 61. 71 personnes sont par ailleurs portées disparues, selon la Croix-Rouge. Sur leur compte Twitter, les Chebabs affirmaient tout à l'heure que 137 otages étaient morts et ils accusent directement le gouvernement kényan d'en être responsable.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Midou au studio Charles Trenet, de la musique 100% mal, avec l'humour Nino Ferrerien de Thomas Fiercel.
Donne-moi un petit baiser.
Les histoires d'A de Pierce Faccini.
Three words of a love song, like broken across the sea.
La pop dance de Jeff Barbara. Et une visite amicale de Féloche et de sa mandoline pour un titre.
Il y a ceux qui brûlent en enfer pour l'éternité dans les flammes éternelles.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
France Inter, il est 16h04, c'est Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Estelle Schmitt, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir deux membres d'un orchestre que vous avez déjà entendu pas mal à l'antenne, le Café de Zimmermann. On va expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça. J'ai déjà dit, mais enfin, ils vont le dire eux-mêmes. Et les membres très importants qui sont ici sont Céline Frisch, claveciniste. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et Pablo Valetti, violon solo de l'orchestre Concertmeister, comme on dit dans d'autres pays, en Allemagne notamment. Oui. C'est-à-dire, c'est le violon qui mène. Hein. C'est comme même dans tout orchestre, il y a le violon solo en quelque sorte.
Oui.
Et vous êtes tous les deux directeur artistique, c'est ça.
Exactement.
Qui est-ce qui parle le plus fort? Il faut aller... Ah, c'est lui. Ah,
ça dépend de quoi on parle.
Ça dépend de, bah, de musique, évidemment. Le reste, ça ne me regarde pas.
Alors, Pablo. Disons que j'essaie de coordonner les répétitions.
Oui, oui,
on a choisi un peu cette figure de concertmeister qui n'est pas vraiment chef d'orchestre.
Oui.
C'est parce qu'on... On essaie de travailler d'une façon, enfin on l'a fait, d'une façon pas verticale,
pas autoritaire
du tout.
Oui.
Et on est très content des musiciens qu'on a, qui nous sommes et de jouer ensemble. J'ai une grande admiration pour les musiciens avec qui je joue.
Oui.
Et ils s'apportent énormément. Et ça serait, de ma part, ça serait bête de leur imposer mon point de vue. À la place de profiter de cette diversité.
De leur capacité, évidemment, partagée. Alors, Céline Frisch, donc vous êtes en général d'accord avec lui, ou bien il y a des discussions quand même, certainement.
Il y en a parfois.
On est en famille, on peut le dire.
Oui, oui. Non, il y en a parfois. Enfin, ce qu'on notait quand même récemment, c'est qu'on parle de moins en moins en répétition, on joue
bon
plus.
Bon signe, peut-être.
Par rapport à il y a quelques années, oui. Plutôt. Oui. Plutôt
c'est qu'il y a des automatismes. Les automatismes, c'est dangereux, mais il y a des choses qui naturellement se font
et qu'il n'y a pas besoin. On s'écoute sans avoir besoin forcément de parler.
Voilà. Alors voici un très bel exemple aussi de communication. On va commencer cette émission consacrée à Vivaldi par Jean-Sébastien Bach. On va dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est trompé? Non, pas du tout, bien sûr. Jean-Sébastien Bach était un grand admirateur de Vivaldi, on le sait, et il a transcrit pas mal d'œuvres de Vivaldi, s'est inspiré de ses concertos. Et voici, par exemple, un concerto pour quatre clavecins, écrit en ré mineur d'ailleurs par Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire qu'il a changé de tonalité pour que ce soit plus facile pour les instruments. Et c'est le final qu'on entend là, sous la plume de Bach, mais inspiré lourdement, j'allais dire gravement, parce que vraiment c'est très fort, de Vivaldi.